s'étendre, paisible sur l'herbe tendre, voir son étoile et la prendre. Qui sait s'il y va vraiment, toi, lui, mais son corps astral. Restera-t-il qu'Elodie vague en réalité étoile? Non, car lui ne fuit que les cons, le pognon, ce qui sent pas bon. Les saloperies, les arnaques, les pages, les plateaux de braque.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors, on va continuer aujourd'hui avec la quatrième partie du livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc, et c'est le dernier chapitre. Eh bien voilà, on ne présente plus Martin Winkler, qui est l'auteur de nombreux livres et médecin lui-même. Et son livre parle donc des abus que l'on peut rencontrer lorsqu'on est face au médecin. Voilà. Je lis donc ce chapitre, cette dernière partie, très courte. Quatrième partie, que faire face à la maltraitance médicale? La maltraitance médicale n'est pas seulement le fait d'actes individuels. Elle est le produit d'un ensemble de conditions défavorables aux soins. Le constat peut paraître désespérant. Cependant, il y a beaucoup de raisons de ne pas baisser les bras. D'abord parce que, quoi qu'en disent, pensent ou fassent les médecins les plus réactionnaires, la relation entre patient et médecin a changé et elle continuera à évoluer. Le temps n'est plus où l'immense majorité des patients acceptaient sans broncher qu'on les traite comme des objets. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la santé des femmes où, même s'il reste beaucoup à faire, les progrès sont considérables. Grâce aux citoyennes. En 2009, dans mon roman Le cœur des femmes, je décrivait en détail ce que devrait être une consultation gynécologique respectueuse. Cette description n'est pas passée inaperçue. Le roman s'est vendu à peu près de 200 000 exemplaires et je reçois chaque jour des messages à son sujet. Alors, oui, donc il y a une correspondante qui lui racontait à l'auteur l'histoire suivante. Ma fille de 19 ans m'annonce qu'elle vient de lire Le cœur des femmes et que le cœur C-H-E-U-E-O-E-U-R des femmes, et ça l'a préparé, entre guillemets, à son premier rendez-vous chez le gynécologue. Justement, elle doit s'y rendre le jour même. Par SMS, je lui écris « Dis bien ce que tu veux et ne veux pas, être toute nue, etc. C'est toi qui choisis. » Elle me répond « Pas de problème. J'ai bien précisé au téléphone que je ne voulais pas d'examen, mais juste un entretien. » Et la gynéco était d'accord, me disant qu'elle ne faisait jamais d'examen gynéco la première fois. Elle me rappelle juste après la consultation « Je ne retournerai jamais la voir. » Elle a commencé par un interrogatoire digne de la police. Je ne pouvais pas en placer une. J'ai dit que je voulais juste parler de contraception. Je suppose que vous y avez déjà réfléchi. Oui, je ne veux pas le pilule. Les hormones, ça m'embête et j'ai peur d'oublier. Je pensais au DIU. Appelé aussi stérilet. La gynéco outrée lui a répondu « Ah ben oui, il y a des avantages, et pour les écolos comme vous, il n'y a pas d'hormones. Mais dans un utérus tout petit, le DIU peut tomber, alors que la pilule, c'est génial. Si vous avez peur d'oublier, prenez un patch. Il y en a un nouveau qui sort en juin, il est transparent. » Ma fille était scandalisée qu'elle lui mente, elle voulait me vendre sa soupe. Disait-elle. Ensuite, la gynéco a voulu prendre sa tension et la peser, mais quand elle a voulu lui faire un examen des seins, ma fille a répliqué « Je vous ai dit que je ne voulais pas. » Bref, elle en est repartie fâchée. T'imagines, si j'avais pas lu Martin Winkler et si ma mère s'intéressait pas à ça, je serais encore jambes écartées dans son cabinet. Alors, Martin Winkler poursuit « L'attitude de cette jeune femme m'a rempli de joie. Elle était impensable, cette attitude, il y a seulement 15 ans. Alors oui, les choses changent. Pas très vite, c'est vrai, mais le temps travaille pour ceux qui vont de l'avant, c'est-à-dire concrètement, les citoyens et citoyennes. Il a fallu de nombreuses années pour que les femmes accèdent au droit de vote, aux méthodes de contraception, à la liberté d'avorter sans risque. La route est longue, mais on avance. Seuls ceux qui veulent maintenir le statu quo font du surplace. Aujourd'hui, grâce à des livres, à des forums, aux réseaux sociaux et plus généralement aux nouvelles initiatives que permet Internet, l'information circule et beaucoup de femmes refusent de se soumettre aux examens arbitraires, aux affirmations mensongères de certains médecins. Pour autant, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas si tôt qu'en France, les facultés de médecine diplômeront des « soignants ». Les structures institutionnelles sont trop lourdes pour qu'on puisse espérer les changer du jour au lendemain. Tout au plus peut-on espérer qu'un parlement plus progressiste que les autres permette par ses lois de créer de nouvelles structures formant des médecins issus de toutes les catégories socio-professionnelles, respectueux, dévoués et qui se consacrent aux soins. Mais il n'est pas nécessaire d'agir sur les structures pour changer les relations entre les gens. Il est tout à fait possible d'œuvrer de manière plus modeste autour de soi pour améliorer grandement le sort des patients et la manière dont ils se feront soigner. Contre la maltraitance médicale ordinaire, il y a beaucoup à faire individuellement et collectivement. Alors, les conseils généraux, lors d'une consultation médicale, tous les médecins ne sont pas maltraitants, mais une consultation chez le médecin peut être un moment de stress et certains gestes peuvent être difficiles ou pénibles. Voici quelques conseils pour rendre toute consultation courante aussi facile que possible. Il est bien évident qu'avec un professionnel soucieux, ces conseils sont superflus, mais ils peuvent être utiles avec un ou une inconnue. Alors, gardez toujours à l'esprit que c'est le médecin qui a des obligations à votre égard, non l'inverse. Si vous avez le sentiment d'être face à une discrimination de quelque nature qu'elle soit, signalez-la au médecin concerné, il n'en a peut-être pas conscience. N'acceptez jamais de régler une consultation à l'avance. N'acceptez jamais de vous déshabiller avant qu'il ne vous ait écouté, qu'on vous examine sans qu'on vous ait expliqué à quoi cet examen va servir, et que vous, sans que vous ayez donné votre consentement. N'acceptez jamais un geste instrumental dont vous ne connaissez pas la nature sans qu'on vous ait expliqué précisément son déroulement, son but et les informations qu'on souhaite en tirer. Tout geste peut être fait de manière indolore ou presque, à condition que le médecin prenne son temps. Lorsqu'on vous fait mal, dites-le et interrompez le geste immédiatement. Arrêtez veut toujours dire arrêtez tout de suite. Un médecin qui fait mal sans l'avoir voulu présente des excuses. Exigez toujours une explication détaillée de ce que le médecin a constaté, de ce qu'il pense ou croit avoir diagnostiqué. S'il ne sait pas, qu'il le dise et qu'il vous dise aussi ce qu'il compte faire pour en savoir plus. Assurez-vous qu'il note précisément ses constatations dans votre dossier. Demandez toujours au médecin qui pratique un examen, échographie, radiographie en particulier, qu'il vous remette les examens effectués et vous explique le compte rendu et les images obtenues. Ils vous appartiennent, ils n'appartiennent ni à ce spécialiste ni au médecin qui les a demandés. De même, votre dossier médical, avec tout ce qu'il contient, vous appartient. Vous êtes en droit d'en demander copie à tout moment. Quand un médecin vous remet une lettre pour un autre médecin, demandez à la lire. Le secret professionnel n'est pas opposable au patient lui-même. Ce qu'il écrit à votre sujet ne peut pas être secret pour vous. Quand vous consultez un médecin pour un problème complexe ou émotionnellement difficile, préparez vos questions par écrit. Si vous craignez de ne pas bien tout comprendre, faites-vous accompagner par une personne de confiance en lui demandant de prendre des notes. Dites au médecin que vous autorisez votre accompagnant ou accompagnante à poser des questions, même s'il ne s'agit pas d'un membre de votre famille. Le secret médical qui vous concerne, vous êtes en droit de le lever pour la personne de votre choix. Et le médecin n'a pas le droit de refuser de vous recevoir avec elle, si c'est ce que vous voulez. Ne partez pas sans avoir compris. Ne prenez pas de décision sans prendre le temps de réfléchir. En dehors d'une hospitalisation en urgence, rien n'est pressé à la minute. Au besoin, assurez-vous que vous pouvez rappeler le médecin ou lui écrire par courriel pour lui poser des questions supplémentaires et qu'il y répondra. Si le médecin tente de faire pression sur vous d'une quelconque manière, verbalement ou moralement, dites-lui que vous ne l'acceptez pas. S'il persiste, sortez et partez sans payer. Alors, qu'est-ce qui est inacceptable chez un médecin? Alors, il y a toute une liste. Au cours d'une consultation médicale, il est inacceptable qu'un médecin vous demande des honoraires non prévus. En principe, tout médecin affiche les siens dans la salle d'attente. Vous fasse payer d'avance en liquide ou refuse de vous donner un reçu pour les sommes versées. Il est inacceptable qu'il refuse d'écouter votre récit ou de répondre à vos questions, qu'il insiste pour vous faire déshabiller dès votre entrée, pour vous examiner entièrement nu, pour vous imposer un examen ou un traitement, une hospitalisation ou toute autre démarche dont vous ne voulez pas. Il est inacceptable qu'un médecin exige de vous examiner. En revanche, vous êtes en droit de demander qu'il vous examine si vous le jugez nécessaire. Il est inacceptable qu'il vous impose la présence d'un ou d'une professionnelle en formation. Vous êtes en droit de refuser qu'un ou une étudiante assiste à la consultation et a fortiori que ce ou cette étudiante pratique sur vous quelque geste que ce soit si vous ne le désirez pas. Il est inacceptable qu'un médecin fasse quelque geste que ce soit sur vous sans votre consentement explicite. S'il n'y met pas un terme dès que vous le demandez et ou s'il récidive, levez-vous, rhabillez-vous et sortez immédiatement. Rappelez-vous, et au besoin, rappelez-en au médecin, le médecin, rappelez-le au médecin, pour le code pénal, toute pénétration sexuelle sans autorisation, examen gynécologique, toucher rectal, échographie vaginale, est un viol. Il est inacceptable qu'un médecin pose des questions concernant votre vie personnelle, votre sexualité ou votre situation professionnelle, familiale, socio-économique, sans relation avec votre motif de consultation. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si le médecin insiste, demandez-lui de vous expliquer en quoi c'est médicalement pertinent. Et si vous n'êtes pas convaincu, demandez-lui de ne pas insister. Il est inacceptable qu'un médecin porte des jugements de valeur sur votre aspect physique, vos vêtements, votre activité professionnelle, votre origine sociale ou ethnique. Les compliments, entre guillemets, appuyés ou séducteurs, sont également inacceptables si on vous en fait, relevez-les et exigez que le médecin vous parle autrement. Il est inacceptable qu'un médecin profère des cris, des reproches, des insultes, des commentaires désagréables ou désobligeants. Demandez-lui de cesser. Si cela ne cesse pas, levez-vous, rhabillez-vous et sortez immédiatement. Il n'a pas le droit non plus de vous soumettre à un chantage, qu'il vous culpabilise, qu'il vous fasse peur ou vous menace, ou pratique l'ingérence dans vos affaires privées, ou vous bombarde de leçons de morale. Demandez-lui de cesser. Si cela ne cesse pas, levez-vous, rhabillez-vous et sortez immédiatement. Il est inacceptable qu'un médecin vous assène une mauvaise nouvelle sans précaution et sans prendre le temps de vous aider à « encaisser », entre guillemets. Un médecin vous doit une information loyale sur votre état, mais n'a pas le droit d'utiliser cette information comme une massue, ni celui de vous laisser en plan. Il est inacceptable qu'un médecin insiste pour que vous preniez une décision sur le champ alors qu'il n'y a pas d'urgence vitale. Il est inacceptable qu'un médecin vous prescrive un médicament à titre expérimental. Il est aussi inacceptable qu'un médecin mente ou vous impose des contre-vérités scientifiques. Si le médecin présente comme avéré une information que vous pensez erronée, vous êtes en droit de lui demander d'où il la tient, c'est-à-dire qu'il vous indique ses sources scientifiques. Il est inacceptable qu'il évoque une information qu'il connaît à votre sujet pour faire pression sur vous, en menaçant de révéler à votre conjoint ou à vos parents le contenu d'une consultation, par exemple. Il est inacceptable qu'un médecin vous parle de ses soucis, de ses impôts ou de sa vie intime. Interrompez-le immédiatement, ça ne vous concerne pas. De même s'il se met à vous parler d'une personne que vous connaissez, un membre de votre famille, l'ami dont il est le médecin, un collègue de travail. Car un médecin n'a pas à vous révéler quoi que ce soit au sujet d'un tiers. Il est inacceptable qu'un médecin marchande d'une prescription à laquelle vous avez droit. Par exemple, je vous prescris la pilule seulement si vous me laissez vous examiner. Ou qu'il refuse de vous soigner si vous n'obéissez pas à ses instructions. Il est inacceptable qu'un médecin invoque la clause de conscience à tort et à travers. Aux yeux de la loi, il n'y a que deux choses qu'un médecin peut refuser de faire par clause de conscience, une IVG et une stérilisation. Mais si vous demandez une IVG, il a l'obligation de vous adresser à un médecin ou un service qui les pratique. Si vous demandez une stérilisation, il doit également vous indiquer à qui vous adresser. Dans un cas comme dans l'autre, il n'a nullement le droit de vous faire la morale ou de vous mentir, en disant par exemple que la loi l'interdit. Il est inacceptable qu'un médecin vous refuse une contraception ou toute autre mesure de prévention sans justification médicale. C'est un refus de soins interdit par la loi. Il est inacceptable qu'il refuse de vous informer sur les effets secondaires du médicament qu'il vous prescrit. Qu'il vous fasse courir un risque ou vous laisse démuni face à une situation angoissante, un risque de grossesse par exemple. Qu'il vous fasse sortir de son bureau sans vous donner le temps de vous rhabiller. Qu'il vous impose une hospitalisation alors que vous n'en voulez pas. vous impose un lieu de soins, clinique, cabinet de radiologie, laboratoire biologique, de son choix, sans respecter le vôtre, votre choix. Devant un ou plusieurs comportements de ce type, vous êtes en droit de demander au médecin d'y mettre fin immédiatement. S'il ou elle refuse ou insiste, levez-vous, rhabillez-vous, sortez immédiatement et partez sans payer. Vous n'avez pas à payer un médecin qui se comporte de manière antiprofessionnelle. Que faire quand on a été victime d'un médecin maltraitant ? Tout le monde peut être de mauvaise humeur une fois de temps à autre, et les soignants n'échappent pas à la règle. Le soignant le plus attentif peut avoir un geste ou une parole blessant par fatigue ou par accident, ça n'en fait pas un professionnel maltraitant. Ce qui signe la maltraitance, c'est la répétition des brutalités par un médecin qui trouve ça normal. Quant au récidive, ce n'est plus un accident. La maltraitance est plus facile à identifier quand on a vu le médecin plusieurs fois. Mais parfois, on l'a subi dès la première entrevue. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un professionnel se comporte de manière inappropriée ou inacceptable, de deux choses l'une, ou bien c'est involontaire, ou bien c'est une attitude systématique. Comment faire la différence ? En le mentionnant et en voyant comment le professionnel réagit. Certains patients peuvent le faire sur le moment, en indiquant au médecin qu'il leur parle ou se comporte de manière incorrecte. Un professionnel consciencieux l'entendra et présentera des excuses. Un professionnel qui ne l'est pas le prendra de haut. On est tout de suite fixé. Parfois, cependant, il n'est pas possible de parler au médecin dont le comportement a été choquant ou brutal. Ça ne veut pas dire qu'on n'y peut rien, au contraire. Comme je l'ai dit plus haut, écrit Martin Winkler, la première chose à faire si l'on se sent maltraité consiste simplement à ramasser ses affaires et à s'en aller sans payer. Ensuite, tout dépend de la gravité de la maltraitance que vous avez subie. La caractéristique des médecins maltraitants, c'est qu'ils répètent leur maltraitance en se pensant intouchables du fait de leur statut et du silence de leur victime. Si un médecin vous a maltraité, il a sûrement agi de même avec d'autres. Il y va de la maltraitance médicale comme des violences conjugales, du viol ou des violences à enfants. Les dénoncer haut et fort, c'est rompre le silence, encourager d'autres personnes à en parler et mettre hors d'état de nuire ceux ou celles qui les commettent. Il est par ailleurs indispensable de se faire entendre des instances concernées, l'établissement qui l'emploie, la CPAM, l'ordre, éventuellement un syndicat professionnel, le collectif interassociatif sur la santé, CISS. Le collectif interassociatif sur la santé. Car l'une des manières les plus efficaces de briser le silence, c'est d'impliquer des tiers, ce que le plus souvent les maltraitants détestent, car c'est le silence qui les protège. L'acteur le plus important, si les maltraitances sont graves, c'est bien sûr la justice. Une maltraitance verbale peut faire l'objet d'un simple courrier adressé au médecin qui l'a commise. Une maltraitance grave doit faire l'objet d'une plainte au pénal. Si vous avez été victime de maltraitance verbale ou psychologique, rédigez ou dictez à quelqu'un le récit de la consultation telle qu'elle s'est passée en citant précisément les paroles du médecin telles que vous vous les rappelez. Indiquez le plus de détails possible. Rédigez une courte lettre destinée au médecin en citant les articles du code de déontologie qu'il a enfreint par son attitude et en joignant copie du récit de la consultation. Si la maltraitance verbale est très grave, propos racistes par exemple, indiquez au médecin que vous vous réservez le droit de faire appel à un avocat et de porter plainte. Patientez une quinzaine de jours, il est très possible que le médecin vous réponde en vous présentant des excuses. S'il le fait, vous êtes en droit de lui donner une seconde chance. Ou non, c'est à vous de voir. S'il ne répond pas à votre lettre, ou s'il répond par un courrier aussi inacceptable que son comportement, ne retournez pas le voir. S'il a répondu par une lettre insultante ou contenant des menaces, allez déposer plainte au commissariat en citant les articles du code de déontologie concernés. Envoyer copie de la lettre et du récit au directeur de l'établissement où le médecin travaille, hôpital ou clinique, à la caisse primaire de votre département, au conseil départemental de l'ordre, en indiquant tous les destinataires, copie a été adressée à, etc. Donc en indiquant tous les destinataires sur toutes les lettres. Envoyer à tous les destinataires les lettres en recommandé avec accusé de réception. Si vous avez été victime d'une maltraitance physique ou d'une faute professionnelle, geste imposé sans consentement, refus de soins, viol de la confidentialité, attitude de discrimination, par exemple, comme dans le cas précédent, rédiger ou dicter très précisément le récit de la consultation des paroles et des gestes. Allez déposer plainte, gratuitement, au commissariat ou à la gendarmerie. Demandez un récépissé et une copie du procès-verbal. Envoyez votre plainte au procureur en recommandé avec accusé de réception. Demandez conseil à un avocat. Il existe des permanences de conseil gratuites dans tous les tribunaux d'instance. Pour savoir si vous n'êtes pas aussi en droit de porter plainte contre l'établissement qui emploie le médecin maltraitant, cabinet de groupe, clinique, hôpital. Dans certains cas, ils peuvent aussi être tenus pour responsables. Si les faits sont très graves, vous pouvez envisager de vous porter partie civile, ce qui contraindra le parquet à ordonner une instruction. Mais cette démarche, contrairement à la plainte simple, est payante. Discutez avec l'avocat de l'éventualité de rendre la plainte publique. Il est parfaitement légal de faire savoir aux journaux que vous portez plainte contre cette personne. Inutile cette fois-ci d'écrire au médecin. Il est préférable qu'il ne sache pas que vous avez porté plainte car il lui sera plus difficile de préparer des réponses toutes faites quand il sera convoqué au commissariat. Prenez contact avec le CISS, adresse en fin de ce chapitre, pour l'informer de votre démarche. Alors, c'est un livre qui date de 2015, alors il faudra vérifier si le CISS existe encore. Pourquoi porter plainte au pénal et non devant l'ordre des médecins? Si votre conjoint ou conjointe était agressé ou est volé dans la rue, si quelqu'un brutalisait votre enfant ou si vous faisiez l'objet d'une tentative de viol, vous iriez porter plainte. Il est indispensable que vous fassiez de même si vous êtes maltraité gravement par un médecin. La maltraitance commise par un médecin est aussi grave que les attouchements commis par les prêtres pédophiles ou les violences policières. Ne les subissez pas sans rien faire. Les maltraitances physiques commises par un médecin sont passibles de la correctionnelle. Il n'y a aucune raison qu'elles fassent l'objet d'un traitement de faveur. Personnellement, je déconseille de déposer plainte devant le conseil de l'ordre car celui-ci recherche toujours un compromis, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt du patient. Si le médecin maltraitant a enfreint ses obligations légales, il relève du tribunal correctionnel et il n'y a aucune raison de le lui épargner. Si le parquet donne suite, l'ordre des médecins sera contraint d'examiner son dossier. Porter plainte au pénal est donc le meilleur moyen de vous faire entendre. Comment faire pour porter plainte? Allez au commissariat ou à la gendarmerie les plus proches de votre domicile. Un officier de police ou de gendarmerie prendra alors votre déposition et vous remettra un récépissé de dépôt de plainte. Demandez une copie du procès-verbal de la plainte. Vous en aurez besoin pour la suite de la procédure. Écrivez au procureur de la République au lieu de l'infraction, du lieu de l'infraction, le procureur de la République du lieu de l'infraction. Modèle de lettre à, c'est sur servicepublic.fr. Si un policier ou un gendarme a refusé de prendre votre plainte, indiquez-le dans votre lettre et précisez dans quel commissariat ou quelle gendarmerie. Relatez les faits et seulement les faits et indiquez aussi le plus précisément possible ce qui s'est dit. Envoyez votre plainte par lettre recommandée avec accusé de réception. Et ensuite, le médecin devra se rendre au commissariat lui aussi pour y faire sa propre déposition. Ce sera pour lui un moment très désagréable. Le dossier sera transmis au procureur. Il n'est pas sûr que celui-ci donnera suite, mais Lorsque plusieurs personnes portent plainte contre le même médecin, le procureur se penche sérieusement sur la question. Saisissez le défenseur des droits. Le défenseur des droits est un personnage clé dans la lutte contre la discrimination et la protection des droits et libertés. Il a près de 400 représentants en France qu'on trouve via le site défenseurdesdroits.fr. défenseurdesdroits.fr. Et propose une ligne dédiée aux questions concernant la santé. Suggestions d'action collective. 1. Aider les autres patients à identifier et reconnaître la maltraitance. Ce livre est une des sources qui peuvent aider au diagnostic, entre guillemets. Il y en a beaucoup d'autres. 2. Faire des appels à témoins dans les réseaux sociaux ou la presse locale pour recueillir des témoignages concernant un médecin ou une structure maltraitant. 3. Faire circuler les témoignages de maltraitance par tous les moyens. Blogs, articles de journaux, émissions de radio, vidéos en ligne. 4. Dresser des annuaires de médecins bienveillants et corrects, mais aussi de médecins maltraitants. Les sites de notation, entre guillemets, de médecins ne sont pas interdits en France. Ils n'ont jamais vraiment rencontré de succès, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réessayer. Un site affichant le nom et le lieu d'exercice des médecins contre lesquels des patients ont déposé plainte serait très, très éclairant. 5. Constituer des associations de patients et se rendre dans les facultés de médecine pour sensibiliser les médecins, étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes en médecine à l'existence de la maltraitance. Inviter des professionnels, mais aussi des membres du Conseil de l'Ordre, des syndicats, des associations locales de médecins à vos réunions en leur envoyant votre bulletin d'information. Aux professionnels de santé en ville ou à l'hôpital, si vous assistez à des actes de maltraitance, si vous recueillez des témoignages de patients et de patientes, ne restez pas sans rien faire. Et d'abord, ne détournez pas les yeux, ne gardez pas le silence. Si vous êtes étudiant, vous pouvez partager ce que vous avez vu par des blogs, des forums, des réseaux sociaux. Si vous êtes un ou une professionnelle en activité, intervenez auprès des institutions, caisse primaire, ordre, direction d'établissement. Ne soyez pas complice par inaction ou par indifférence. Votre obligation première, c'est de soutenir les patients par tous les moyens. Et voilà, ainsi se termine le dernier chapitre de Les Brutes en Blanc de Martin Winkler. Une petite conclusion. Conclusion, faites-vous entendre. La maltraitance médicale est une réalité en France, elle est très répandue, pour autant elle n'est pas inévitable. L'arme principale des professionnels maltraitants, c'est de laisser entendre qu'on ne peut rien contre eux. Il est temps qu'ils cessent de se croire tout puissants. Pour cela, il faut que les citoyens agissent. Et en ce domaine, il n'y a pas de petit combat. Demander qu'on vous écoute et qu'on vous explique, dire non quand on cherche à vous imposer ce que vous ne voulez pas, c'est déjà une victoire. Vous méritez d'être bien soigné, faites entendre votre voix. Et puis ce sont les documents, ressources et adresses. Donc le 6, hein, le collectif interassociatif sur la santé, apparemment c'est www.lecis.org, regroupe en 2015 44 associations de patients et d'usagers avec des antennes dans toutes les régions, donc près de chez vous. Son service SOS Info Droit répond à vos questions sur la santé et la loi au 01 53 62 40 30. Il y a le collectif Gin and Co. Gin et Co. Liste de soignants et soignantes féministes. Gin and Co. GYNANDCO.org. wordpress.com. Le site Médecin Gay Friendly, avec des tirets entre chaque mot, médecingayfriendly.fr. Un annuaire remis à jour périodiquement des chirurgiens qui acceptent de pratiquer des ligatures de trompe et des vasectomies est disponible sur mon site, a écrit l'auteur, de www.martinwinkler.com. Tapez annuaire stérilisation dans la zone de recherche. Eh bien, voilà. On vous l'a dit tout à l'heure, comment porter plainte, c'est www.service-public.fr. Et l'auteur fait ses remerciements. Merci à toutes les personnes patientes ou impatientes qui se sont un jour adressées à moi pour me demander un conseil ou me confier un problème de santé, de vive voix ou par écrit, il y a 35 ans ou aujourd'hui. Elles m'ont appris à soigner et continuent à le faire. Merci au personnel de médecine 1, à l'hôpital local de Pithiviers, à l'équipe du centre d'IVG et de planification au CH du Mans, ainsi qu'aux membres des groupes Balint auxquels j'ai participé. Ils m'ont aidé à comprendre que chacun de nous peut être maltraitant et m'ont aidé à faire de mon mieux pour ne plus l'être. Après, il y a un merci à toute une liste de gens dont les noms défilent. Merci aux internautes et professionnels de santé qui m'adressent leurs messages, interpellations, contributions et interventions sur Facebook, sur Twitter et dans la blogosphère. Grâce à leurs paroles, parfois contradictoires mais toujours vivantes, ma réflexion s'est beaucoup enrichie. Merci à Muriel Hess qui m'a invité à écrire ce texte et m'a prodigué conseil et encouragement pendant sa rédaction. Merci à et à d'autres qui, pour me permettre de le partager, en ont fait un livre. Et voilà, et en fait, on est toujours sur Radio Libertaire, et c'est toujours l'émission L'Entonnoir, critique de la psychiatrie, et plus généralement, cette première partie d'émission, contre le pouvoir médical. Eh bien, nous allons faire écouter une petite chanson, et nous allons revenir ensuite avec un peu d'actualité. C'était Le Tigre et c'est toujours L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire. Alors, dans une session ordinaire, le Sénat a fait une proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le Code de la santé publique. C'est un projet de loi du Sénat. Et voici l'exposé des motifs. Mesdames, messieurs, la santé mentale est la grande cause nationale pour 2025. Ainsi, 20 ans après la loi sur le handicap de 2005 qui a consacré la reconnaissance du handicap psychique, les maladies psychiatriques semblent enfin bénéficier d'une attention nécessaire et légitime. Alors oui, les maladies, hein, pas les personnes. Hein. En effet, 12,5 millions de Français sont atteints de maladies mentales et un jeune adulte sur deux présente des signes de dépression. Chaque année, 6000 personnes meurent par suicide, ce qui représente la première cause de décès des 15-29 ans. Les pathologies psychiatriques présentent la première catégorie des affections longue durée, devant les cancers, et la première cause de dépenses de santé avec des coûts directs qui représentent 25 milliards d'euros en 2023, soit le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. Au niveau international, selon l'OCDE, une personne sur trois a été, est ou sera atteinte d'une maladie mentale. Il s'agit de la première cause mondiale de handicap acquis, selon l'OMS, qui induit une réduction de 20 ans d'espérance de vie. Intervenir de manière précoce dans la prévention et la gestion des troubles mentaux permet de réduire les incidents liés à des crises, pouvant aussi constituer un sujet d'ordre public. À ce jour, le modèle français de la psychiatrie publique est organisé en secteurs d'environ 70 000 habitants, offrant un panier de soins intra- et extra-hospitaliers. Le critère d'orientation diagnostique et thérapeutique est géographique, permettant un maillage territorial fin et une prise en charge de proximité pour des patients alternant des phases chroniques ou aiguës. Cependant, l'accès tardif aux soins ne garantit ni une prévention satisfaisante, ni une prise en charge spécialisée par pathologie, ni une prise en charge des comorbidités somatiques conduisant à une mortalité prématurée pour les patients concernés. Alors, je vais m'arrêter là, c'est la première page, parce que vraiment, il y a des commentaires quand même... qu'on peut faire. La santé mentale, grande cause nationale, ça a été, donc si c'est pour renforcer, si c'est pour renforcer la psychiatrie coercitive, c'est pas forcément, c'était pas la peine de s'agiter pour ça. Alors, le suicide, 6000 personnes meurent par suicide chaque année. Première cause de décès des 15-29 ans. Il faut dire aussi, peut-être on peut se demander, par contre, qu'est-ce qui cause les suicides? Qu'est-ce qui cause la volonté de se suicider? Quels sont les facteurs de ce phénomène. Alors, les pathologies psychiatriques représentent la première catégorie des affections longue durée devant les cancers et la première cause de dépenses de santé. Ça, c'est aussi grâce à la chronicisation, hein, des patients. Il existe dans dans d'autres manières de prendre en charge les pathologies psychiatriques, c'est plus d'écoute et moins de médicaments, et surtout une prise de médicaments qu'on peut arrêter à un moment où l'on sent que c'est possible. Et là, en France, ça n'existe pas. Aller parler d'un sevrage à un psychiatre, il fera la sourde oreille. Absolument, hein, vous pouvez vérifier, hein, ça marche à tous les coups. Et donc, 25 milliards d'euros en 2023, premier poste de dépense de l'assurance maladie, oui, en effet, avec tous les médicaments, avec tout ce qu'on achète, hein, avec tous ces patients qu'on met, tous ces médicaments qui créent une addiction, en fait. Et donc, ces patients qu'on abonne en quelque sorte à la livraison de nouvelles cargaisons entières de médicaments, des tonnes et des tonnes, hein, de neuroleptiques passent l'océan Atlantique depuis les firmes états-uniennes, les labos. Et donc là, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent, hein, qui est dépensé pour maintenir tranquille des gens dont on pense qu'ils ont débordé de la norme. Donc voilà, donc oui, ça coûte cher et tout ça, oui, ça coûte cher, c'est vraiment. Et une personne sur trois est ou sera atteinte d'une maladie mentale, selon l'OCDE au niveau international. Alors, ça c'est très flou, hein, parce que si on nous disait, par exemple, juste aujourd'hui, maintenant, une personne sur trois est atteinte d'une maladie mentale, ce serait clair. Mais là, apparemment, c'est beaucoup moins, puisque on inclut à la fois le passé et le présent et le futur dans cette statistique. Donc là, effectivement, on peut, surtout quand on fait intervenir le futur, on ne peut pas vraiment deviner ce qui va en être. Bon. Donc apparemment, l'OCDE veut un petit peu alarmer un peu plus que de droit. Et première cause mondiale de handicap aussi acquis, selon l'OMS, qui a dû une réduction de 20 ans d'espérance de vie. Mais le handicap, là encore, il est provoqué par quoi ? Par cette fameuse maladie mentale dont est atteinte la personne, ou bien par le traitement qu'on lui fait subir et qui lui induit une réduction de 20 ans d'espérance de vie. Étant donné qu'elle attaque sérieusement son système nerveux. Donc l'intervention précoce, évidemment, c'est ce qui est préconisé pour la prévention et la gestion des troubles mentaux. Disent-ils, ce qui permet de réduire les incidents liés à des crises pouvant aussi constituer un objet d'ordre public. Alors, c'est-à-dire que là, on est dans la prévention, mais aussi dans la prédiction. Hein. Là, telle personne va commettre un trouble à l'ordre public, donc il va falloir tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a des prémices. Hein. C'est vrai que ça peut. Il peut y avoir des signaux avant-coureurs. Je suis d'accord. Allez. Pourquoi Pourquoi cette proposition de loi pour ouvrir des centres experts alors qu'on avait les centres d'accueil et de crise qui étaient du service public et qui étaient justement faits pour éviter les hospitalisations et voir s'il n'y avait pas de solution auparavant, quoi. Eh bien, voici le motif. La spécialité psychiatrique connaît une baisse d'attractivité forte en France, tant en personnel médical que paramédical. Le nombre de médecins en psychiatrie n'a cessé de décroître, passant de 14 272 à 13 344 entre 2016 et 2023, selon la DREES. C'est pas nous qui allons nous en plaindre. L'âge moyen des psychiatres libéraux et salariés était de 52 ans en janvier 2021 et de 62 ans pour les pédopsychiatres. Face à une incidence en hausse constante des pathologies psychiatriques, une expérimentation a été initiée en 2007 par décret du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour organiser un système de recours spécialisé par pathologie, gradué et intégré au parcours de soins et complémentaire de la psychiatrie conventionnelle. Ces centres experts en psychiatrie, coordonnés par une fondation de coopération scientifique, ont développé une prise en charge globale, pluridisciplinaire et spécialisée par pathologie. Les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles du spectre autistique sans retard intellectuel et les dépressions résistantes. Alors, donc, l'autisme sans retard intellectuel est une maladie. Hein. Voilà, déjà... C'est ce qui est annoncé. Donc, ces centres experts, il en existe aujourd'hui 53. Ils proposent un service complétant l'offre de soins généralistes sectoriés et fournissent aux professionnels de santé prescripteurs un avis expert et des recommandations adaptées à chaque patient. Ayant vocation à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères, ils ont déjà permis l'évaluation de plus de 20 000 patients et à la France d'atteindre la troisième place en matière de recherche sur les troubles bipolaires. 12 mois après une évaluation en centre expert, une amélioration du pronostic et une réduction de 50% des journées d'hospitalisation sont constatées. Donc l'expérience a déjà été faite, apparemment. Le budget nécessaire au fonctionnement d'un centre expert est de 320 000 euros. Cela comprend la rémunération d'un psychiatre qui est médecin hospitalier, d'un psychologue, d'un neuropsychologue, d'un secrétaire médical, d'un assistant social, d'un infirmier et d'un technicien d'études cliniques, avec un budget de fonctionnement et d'équipement de 20 000 euros. Donc voilà, c'est bouclé, voilà le kit d'un centre expert. Ces centres experts sont aujourd'hui victimes de leur succès. Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous de bilan est de 2 ans, voire 3 ans pour l'autisme. L'afflux des patients est en hausse constante. La demande de labellisation de nouveaux centres experts sur le territoire national est croissante. Ils sont aussi confrontés à des demandes d'extension à d'autres pathologies comme les conduites suicidaires, les troubles obsessionnels compulsifs, l'hyperactivité avec déficit d'attention ou les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, il s'agit d'officialiser l'existant et d'intégrer ce modèle expérimental comme offre de soins à part entière dans le code de la santé publique en complément de l'offre de secteur. En outre, afin de décloisonner les pistes en charge somatique et psychiatrique et améliorer le recours précoce, les communautés professionnelles territoriales de santé doivent prendre en charge la dimension psychiatrique en intégrant les parcours dédiés à la santé mentale et des professionnels de la santé mentale. L'article 1... vise à intégrer dans le code de la santé publique le rôle des centres experts en santé mentale existants à titre expérimental à date sur les territoires nationaux de façon durable et connectée avec le système de soins. L'article 2 vise à intégrer les projets de santé mentale au sein des communautés professionnelles territoriales de santé en lien notamment avec des projets territoriaux de santé mentale et les centres experts. Ce chaînage à Mont-Aval permettrait une prise en compte des signaux faibles chez les usagers. Oui, voilà, c'est un jargon qui est difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que les signaux faibles chez les usagers, par exemple? L'article 3 constitue le gage financier de cette proposition de loi. Toutefois, les mesures proposées pourraient être financées grâce aux économies réalisées, qui pourraient s'élever jusqu'à 18 milliards d'euros. Voilà, en diminuant de 50% les réhospitalisations, 12 mois après un bilan. Alors, ça, c'est encore des promesses, mais en fait, comment les réhospitalisations vont-elles être diminuées ? Voilà, donc ça, c'est le projet de loi. Et il y a eu une pétition, du coup, sur cette proposition de loi, sur change.org. La proposition de la loi numéro 385 qui a été déposée le 27 février 2025 a été discutée en séance publique le 16 décembre 2025. Ce texte vise à étendre sur tout le territoire le nombre et l'influence des centres experts. Il justifie cette orientation en avançant la promesse d'une économie annuelle de 18 milliards d'euros fondée sur l'hypothèse d'une réduction de 50% des jours d'hospitalisation pour les patients ayant consulté dans ces centres. Les centres experts en psychiatrie ont été créés en 2007 par la Fondation Fondamentale et leur réseau s'est progressivement étendu pour couvrir en 2025 54 structures dédiées au groupe bipolaire, à la schizophrénie, à la dépression résistante et à l'autisme adulte. Ils sont considérés comme de troisième niveau, c'est-à-dire non habilités à traiter les urgences psychiatriques. Et ça c'est écrit par c'est écrit par Clément Fromentin. Et donc, les centres experts bénéficient d'un label valorisé, d'une visibilité médiatique forte et d'un appui politique évident. Malgré leur promotion politique récente, leur efficacité réelle reste controversée. Les seules données disponibles concernant les troubles bipolaires, deux études, Henri 2017, l'AIDI 2022, souffre de limites méthodologiques majeures. Une absence de groupe contrôle, un risque élevé de régression à la moyenne et absence de preuves pour les autres pathologies. Aucune obligation ne documente une réduction de 50% des hospitalisations pour la schizophrénie, la dépression résistante, contrairement aux affirmations avancées par les promoteurs du dispositif. L'extension législative des centres experts repose ainsi sur une base scientifique fragile, ce que soulignent explicitement F. Gonon, F. Naudet et B. Falissard dans leur étude. D'autre part, le journaliste Stéphane Foucard dans Le Monde, daté du 4 juin 2025, s'était fait l'écho de la communication de la Fondation Fondamentale, accusée par plusieurs chercheurs d'utiliser de manière trompeuse des données scientifiques pour promouvoir ces centres experts en psychiatrie. Les centres experts revendiquent s'appuyer sur les progrès de la génomique, données purement conjecturales pour le moment, et sur le diagnostic par imagerie. Ces protocoles participent à imposer une vision de la psychiatrie fondée sur des données mesurables, réductrices à des biomarqueurs et des questionnaires standardisés. Ce modèle médical qui voudrait imposer sa normalisation se situe à l'opposé d'une pratique de la psychiatrie fondée sur la rencontre, l'accueil et de la subjectivité, l'ouverture à la singularité de la parole. Voilà, donc c'est un peu une réaction de certains autres soignants qui motive cette pétition. La rencontre, l'accueil et la subjectivité, et on pourrait même dire peut-être même sans soignant. Et pour finir d'ailleurs, un petit appel, une personne qui s'adresse à un cercle, enfin disons à une liste de diffusion, et qui dit Hello, j'habite à Marseille et je suis un grand habitué des psys de toutes les sortes, j'en ai marre. J'en ai marre de me référer à un étranger pour parler de ma vie, d'être enfermé dans les analyses psy pour me connaître et me comprendre moi-même. J'en ai marre du rapport individuel aux soins, j'en ai marre de courir après les professionnels de santé en me disant que si je fais assez de thérapie, un jour je serai adapté à la vie dans cette société et je serai heureux. J'en ai marre de parler de ma vie dans un ton forcément sérieux à des gens qui tirent la gueule dans un bureau aseptisé. J'en ai marre d'essayer de mettre seul un sens à ma vie et à mes problèmes, de manière isolée, comme si je devais me suffire, alors que tout mon bagage politique me rappelle à quel point tout est social et que les solutions sont collectives. Marre de baigner dans cette culture psy qui est un poison, j'en ai marre. J'ai envie de vivre autre chose, d'expérimenter collectivement, d'échanger de l'écoute, du soutien, des pleurs, des rires, des souvenirs avec un groupe de gens. J'ai envie de creuser le projet Icarus, icarus.poivron.org, le théâtre de l'opprimé, l'écoute active, la psychologie critique et d'autres projets, mais j'ai aussi envie de me sentir libre de créer à partir de rien, ou plutôt de nous, de ce qui nous parle. Alors je n'ai pas de projet précis à proposer, juste un appel à toutes les personnes à qui ma démarche parle. Pour me situer un peu, j'ai la trentaine, je suis autonome, entre guillemets, pour mon quotidien, à part pendant des périodes ponctuelles où j'en peux trop plus de la vie parce que je suis désespéré. J'aspire à détruire le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Je passe pas mal de temps à créer des moments chouettes, des liens précieux pour ne pas nous laisser bouffer par le libéralisme. J'aime pas mal les approches sociologiques. Je crois que je suis assez ouvert pour rencontrer des gens différents. Par contre, je m'oppose à tout ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, c'est-à-dire la posture qui consiste à dire qu'on veut pas de religion institutionnelle, mais que chacun bricole son truc à base d'énergie, de soins énergétiques variés, de pierres, d'appels aux esprits, de croyances magiques, surtout dans les rapports de soins. Je n'ai pas envie de lancer un débat ici, ce n'est pas l'objectif, mais je préfère prévenir que je préfère ne pas expérimenter sur des choses de cet ordre dans le cas où un groupe se constituerait. Mais après, bien sûr, je n'ai rien contre les gens qui ont des croyances et des pratiques, entre guillemets, spirituelles. Aussi, je crois que je ne suis pas sûr d'avoir envie de baser ce groupe à partir d'identités, quelles qu'elles soient, mais plutôt à partir de nos envies et pratiques politiques. À discuter, tout reste à construire ensemble. Contacte-moi si ce message te porte. Et voilà, et c'est sur ces mots que se termine l'entonnoir pour cette semaine. Et donc, nous vous disons au revoir. Et nous allons écouter maintenant une émission de Radio Libertaire Méditerranée, qui est un rayon de soleil. Le temps de la poser sur la liste de lecture. Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et nous allons entendre Le Temps des Cerises, un son de cloche.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Nous aimons, tu casses-tu.